Bienvenue à Un Expresso, s'il vous plaît. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par siteexact.ca, une entreprise d'ici, de Shawinigan. Que vous ayez besoin d'un site web, d'une boutique en ligne ou de services de référencement web, siteexact est là pour vous. Cette entreprise sera à l'écoute de tous vos besoins et vous aidera à réaliser vos projets. Pour plus amples renseignements, visitez siteexact.ca. Hey, alors, bienvenue à Un Expresso, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans le podcast familial, on a une super invitée, Émilie Ouellette. Bonjour, Émilie.
Allô, comment ça va?
Ça va très bien. Écoute, vraiment contente de t'avoir avec nous. On est présentement avec Cathy. Cathy Dubé, hein, de Cigogne-Belchon, ma collaboratrice extraordinaire. J'y trouve des qualificatifs nouveaux à toutes les fois qu'on a notre podcast.
Oui, mais je pense qu'extraordinaire, ça fait deux fois que tu le dis, là.
Ah, ben là, je vais changer de bord. Je vais dire spécifiquement extraordinaire. J'ai-tu le droit de dire ça?
C'est parfait.
Alors aujourd'hui, on est avec Émilie Ouellette. Émilie qui est une autrice, une scénariste, une humoriste, qui a été même clown thérapeutique et qui a débuté sa carrière en travail social. Alors, bienvenue avec nous aujourd'hui. Je suis super contente, franchement. Là, ça fait deux fois que je le dis, mais c'est pas grave. Hein, on est vraiment contents, c'est ça l'affaire.
Ben oui, absolument. Puis je suis très contente aussi d'être là. J'aime toujours parler de avec des personnes, tu sais, parce que là, je sais que c'est comme on est aussi dans la bulle familiale, en fait, là, oui. Tu sais, on en sert là. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, même si je pense qu'il y a des gens qui trouvent qu'on en parle beaucoup puis trop, mais moi, je pense que non, pas assez. En fait, où il y a beaucoup de sujets tabous aussi autour de la famille. On va parler bien des affaires.
Ça va nous amener quelque part, cette histoire-là.
Cette histoire-là va nous amener quelque part, c'est clair.
Alors là, toi, t'as gentiment accepté d'assister à notre podcast ce matin. Bien, ce matin, mon Dieu, on est dans l'après-midi, je suis bien mêlée. Tu vois, la pandémie, ça me fait pas pantoute. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, on voulait te rencontrer justement parce que là, t'avais un petit lousse. Fait qu'on a pris, ce petit lousse-là pour t'avoir avec nous cet après-midi. Alors, vas-y donc avec le début. T'as premièrement été une travailleuse sociale, toi.
Une travailleuse soissoine.
Ouais, hein? Oh.
En fait, je vais
prendre un café.
C'est ça. Je vais prendre. Je vais rectifier certaines affaires parce que j'ai un parcours un peu atypique, mettons. C'est-à-dire que j'ai commencé comme. J'ai travaillé comme intervenante. Tu sais, dans début vingtaine, là, j'ai travaillé dans une maison des jeunes. J'ai travaillé avec les ados. J'ai travaillé en milieu scolaire avec des jeunes. Autiste, j'ai fait un peu de travail de rue, j'ai travaillé avec des 6-12 ans, tu sais, fait que j'ai fait comme tout du loisir, intervention. Tu sais, quand tu travailles en communautaire, tu touches à beaucoup, beaucoup de choses. J'avais pas de bac à ce moment-là, j'étais pas diplômée, j'ai comme juste eu la chance de, ben, je pense, avoir un peu de talent dans cet emploi-là, tu sais, puis voilà. Puis après ça, en fait, le premier diplôme que j'ai eu, c'est l'École nationale de l'humour, fait que j'ai vraiment tout de suite été à l'École nationale de l'humour. Donc, j'ai fait un DEC en art dramatique. J'ai été à l'École de l'humour parce qu'en art dramatique, on me disait « Ouais, peut-être pas tant comédienne, mais t'es drôle! » J'avais dit oh, « OK! » Fait que j'ai fait ça. Mais tu sais, même si j'étais à l'école, il fallait que je travaille pour payer mon loyer et tout ça. Fait que j'étais intervenante pendant quelques années. Puis après ça, j'ai arrêté l'école. Ben, quand j'ai fini l'École de l'humour, après ça, j'ai poursuivi un peu là-dedans, comme peut-être un an ou deux après, mais j'ai complètement arrêté après. Il y avait vraiment un problème de sens pour moi. Tu sais, je le dis parce que ça va être une petite fondation là, pour toutes nos discussions plus tard. Mais il y avait comme un manque de sens pour moi à un moment donné. Tu sais, quand tu crées toujours du drôle, de l'humour, pour moi, c'était j'étais vidée, en fait. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que j'avais vraiment tout dit là, tu sais, de ma jeune vie de 22 ans. Là, tu sais, je me disais, ouais, là, je ris plus de rien. J'avais plus de fun. Ben, puis beaucoup de stress, d'anxiété. En tout cas, il y a tout ça qui était sorti dans l'eau. Fait que là, je suis devenue intervenante à temps plein. Puis j'ai poursuivi dans tous ces jobs-là dans le communautaire, si tu veux. J'aimais beaucoup tous les différents types de clientèle. Puis après ça, je suis tombée enceinte, j'ai eu ma première fille, puis j'essaie de voir. Oui, non, avant qu'elle vienne au monde, là, j'ai entamé un bac en travail social. Ben, je me suis dit, c'est tant qu'à travailler dans le communautaire, puis tout ça, pour m'ouvrir des portes, c'est tant qu'à faire ce job-là, je me disais, j'avais pas besoin du diplôme pour faire ce que je faisais, Mais le fait d'avoir le diplôme m'allait m'ouvrir des portes, allait aussi m'apporter des connaissances, puis tout ça. Mais je me disais, si je veux travailler dans le réseau de la santé, par contre, tu sais, genre. Fait que j'ai commencé un bac, mais tu sais, je l'ai fait en 7 ans, là, parce que tu sais, j'ai commencé, j'avais pas d'enfant, puis j'ai fini, j'en avais 3, là. Tu sais, fait que c'est comme, ça a été comme un long processus. Puis c'est ça, fait que bref, puis à un moment donné, l'humour, puis l'expression artistique m'a manqué. Fait que là, je me suis rendu compte que quand je faisais quelque chose qui, pour moi, avait du sens à temps plein, là, tu sais, comme être... parce que je trouve que ça avait du sens pour moi d'être intervenante, d'être là avec les jeunes ou avec les gens, peu importe la clientèle cible ou, tu sais, peu importe... j'allais dire le public visé, mais c'est pas un public, hein, comme, en tout cas. Peu importe les gens avec qui je travaillais. Ben c'est ça. Après ça, j'ai fait... Bon, mais là, il me manque de l'expression artistique, tu sais. Là, fait que pour moi, j'ai comme ça m'est arrivé de jongler d'une fois à l'autre. Là, j'ai complètement arrêté d'être intervenante. Puis je suis revenue humoriste à temps plein. Puis j'ai sorti mon spectacle dans la marge. J'ai été chercher des subventions. J'ai commencé. Tu sais, fait que à un moment donné, je me suis rendu compte non, il faut que les deux soient mélangés pour moi. Puis là, c'est là que j'ai découvert que Dr. Clown était un organisme qui existait. Puis je me rappelle, peut-être 2-3 ans avant que je sois engagée, là, déjà, j'avais fait comme, oh mon Dieu, ça pour moi, ça serait être clown thérapeutique, ça serait comme le meilleur des deux mondes parce que je pourrais être artiste puis en même temps, tu sais, être avec les jeunes, les enfants, les personnes âgées, tout ça. Mais tu sais, il fallait quand même une formation de clown, ce que je n'avais pas. Fait que ça m'a quand même pris 1 an ou 2 me former, faire le processus parce qu'il y avait quand même un processus d'audition. Il y avait quand même, tu sais, il fallait que tu aies une formation psychosociale. Fallait, tu sais, bon, tout ça, jeune maman, bac. Tu sais, mettons, maintenant j'y repense, des fois, je me dis, je suis fatiguée.
Il y avait de quoi light un peu quand même?
Ben, je leur dis, mais je suis fatiguée. Genre, je fais comme, ben voyons donc, je faisais ça.
J'ai soufflé déjà.
J'ai soufflé, Colin.
Mais moi, Émilie, j'aimerais savoir, dis-moi, comment, de quelle façon on peut devenir clown? Là, tu dis qu'il y a des formations, là, moi, je ne savais pas. Là, que, oui. Fait que c'est quoi, là, le grosso modo, le processus?
Pour être engagé, mettons.
Oui.
En fait, Dr. Clown, c'est un organisme, donc c'est un OBNL. Eux autres, ils ont un processus, puis ils ont aussi une direction artistique. C'est-à-dire que pour eux, les clowns thérapeutiques, ben, ça suit quand même une direction artistique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de clowns. T'sais, si tu regardes beaucoup en Europe, là, la culture du clown est un art qui est vivant depuis longtemps. Ici, au Québec, c'est quelque chose qui est un peu différent parce qu'on perçoit souvent le clown comme étant en bas de l'échelle, mais pas de manière positive. Là, vraiment comme, ben, d'ailleurs, on va critiquer quelqu'un en disant ouais, c'est un clown. Il n'est pas sérieux. On va dire ça. On dit un politicien que c'est un vrai clown. En général, on ne lui fait pas vraiment confiance. On n'est pas. Fait qu'on a comme un rapport avec la culture du clown qui est très, très, très différent. Ou, ben là, on a le clown McDonald's, on a le clown, clown fête d'enfants, clown, bon, il y a tout ça. Mais dans cet art-là, le clown blanc, le clown rouge, bref, il y a tout. Donc, il y a une vision artistique que Dr. Clown avait. Donc, il s'était associé vraiment avec une formatrice qui donnait vraiment, qui a fait du cirque pendant longtemps, puis qui avait cette approche-là. Donc, il fallait aller suivre des stages, au minimum 2 stages de clown. Donc, elle offrait plusieurs stages de clown, là. Fallait au moins prendre cela de base, puis je pense le 1, le 2, pour développer notre personnage clownesque. Ce qui fait qu'on part de nous, là, c'est très intègre. Là, tu sais, dans le fond, c'est de partir de ta propre personnalité dans cette formation-là, d'apprendre à comment exagérer. Tu sais, c'est sur le langage du clown, c'est-à-dire un clown, c'est très expressif, mais c'est très authentique et vrai. Tu sais, fait que dans le fond, tu pourrais pas dire, moi, je pourrais pas décider, exemple, dire, hey, moi, j'ai toujours trouvé ça le fun, les clowns naïfs. Tu sais, j'aime, je trouve ça drôle. Tu sais, quand ils sont naïfs, là, puis que tu regardes, puis ils font comme, je savais pas que ça allait m'arriver, puis là, tu dis, mais moi, je pourrais pas faire ça parce que je n'ai pas ça dans ma personnalité. Fait que quand même, j'essaie de jouer ça, il n'y a personne qui y croit. Fait que c'est quand même, pour vrai, là, il y a un aspect très thérapie personnelle là-dedans. Faut que tu sois prête parce que quand tu fais les premiers stages de clown, puis que là, ton clown se révèle à toi, tu sais. Mais quand il se révèle à toi, là, dans ces formations-là, ben c'est avec tes défauts pas mal. Fait que, tu sais, faut que tu sois prête à dire, OK, je vais rire de ces parties-là de moi, là, mettons, tu sais. Mais une fois que tu le sais, que tu l'acceptes, que tu le maîtrises, c'est merveilleux. Fait que là, ça fait partie, faut que tu aies ça. Puis donc aussi, il faut que tu aies une formation psychosociale, c'est-à-dire que, bon, mais tu vois, moi, j'avais été intervenante ou une expérience psychosociale, tu sais. Fait qu'il peut y avoir des éducateurs spécialisés, ils peuvent avoir des travailleurs sociaux, ils peuvent avoir. Il y en a qui étaient infirmières, puis qui sont, tu sais, comme en relation d'aide, mettons une expérience en relation d'aide. Puis après ça, bien, Dr. Clown nous prend sous son aile quand tu es engagé, quand tu passes le processus d'audition, puis tout ça. Puis qu'on complète la grande équipe, bien, après ça, ils te prennent sous son aile, sur leur aile, en tout cas, ils te prennent en quelque part. Il t'amène aussi dans cette formation-là où, en exemple, on a eu des petites formations plus spécifiques sur l'Alzheimer, par exemple, parce qu'on allait avoir des patients qui allaient avoir l'Alzheimer ou les soins palliatifs, à quoi ça peut ressembler, ou quand ils sont immunosupprimés, tu sais, ou comment agir. Fait qu'il y a aussi toute la version sanitaire, mais il y a aussi toute la version psychologique de ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment...
Wow!
Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de formations avant d'entrer sur le terrain, d'aller vraiment dans un hôpital, puis d'aller dans un CHSLD, par exemple. Là, puis on est toujours en duo, on est toujours deux, on travaille toujours en équipe de deux. Donc, mais tu sais, ça, c'était un de mes rêves. Je suis vraiment contente d'avoir accompli cette partie-là. Puis pendant 5 ans, j'ai eu la chance de travailler pour cet organisme-là, fait que je suis très chanceuse.
Mais tu vois, moi, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur de t'entendre parler de ça parce que j'ai été hospitalisée quand j'étais jeune à l'hôpital de Sainte-Justine. J'ai eu une opération au cœur. Puis il y avait eu des clowns qui étaient venus me rencontrer. Là, puis ça faisait un bien immense là, de premièrement, pas être toute seule. Tu sais, pour moi, là, quand j'avais 16 ans, là, c'était gros comme hôpital là, d'aller à Sainte-Justine puis d'avoir été opérée là. Puis, wow, ça a été là, une expérience. Même j'ai encore des photos avec ces clowns-là.
Faudrait que tu me dises leur nom.
Non, j'ai pas leur nom, mais c'est...
Non, mais leur nom de clown?
Je sais pas.
Caroline,
tu montreras
des photos.
Ça fait longtemps. Ben oui, je vais t'envoyer les photos, je pourrais faire ça. Il va falloir que je fasse dans mes souvenirs. Là. Mais ça avait été super le fun. Je me souviens, il y avait un homme, là, mais...
Un chapeau de
cow-boy. Et là là! Je sais pas, ça se peut-tu? Un chapeau de cow-boy noir?
Ça se pourrait.
OK. Ben, en tout cas, je vais t'envoyer...
Le mystère au prochain épisode de podcast. Découvrons qui était dans la chambre d'Annie à l'hôpital.
Mais on va l'inviter à venir.
Mais t'as raison. Puis les gens vont sous-estimer ça. Tu sais, souvent, l'importance du clown thérapeutique ou pas. Tu sais, mettons, autant chez les enfants que chez les personnes âgées. Les gens avaient beaucoup peur chez les personnes âgées qu'on infantilise beaucoup les personnes âgées. Puis vraiment pas, hein, vraiment, vraiment pas. C'est-à-dire que l'approche, tu sais, l'approche, justement, était adaptée à la clientèle. C'est-à-dire qu'avec les enfants, on avait vraiment un costume de clown qui était plus, j'allais dire enfantin, mais pas tant enfantin, mais peut-être plus extravagant, peut-être plus un peu tape à l'œil, puis tout ça pour justement. Mais avec le sarrau, de toute façon, de Dr. Clown, on avait toujours le sarrau blanc pour y aller. Alors qu'avec les personnes âgées, on a vraiment fait bien. Dr. Clown avait vraiment bien fait sa recherche dans le développement de ce projet-là parce que on était allé trouver des costumes qui étaient inspirés des années 30 et 40 parce que. Ça correspondait aux personnes âgées, à leur jeunesse, si tu veux. Puis, tu sais, c'est souvent ça qui revenait là, quand on est dans la démence ou tout ça, c'est souvent les âges de la jeunesse. Fait que il y avait. Donc, nos déguisements étaient, tu sais, des robes ou des costumes des années 30, 40, avec juste le nez de clown. Tu sais, on n'avait pas de maquillage dans cette direction artistique-là, juste le nez de clown, beaucoup de musique avec les personnes âgées. Beaucoup briser la solitude, beaucoup, beaucoup de folie, beaucoup de niaiserie, beaucoup de, tu sais... Moi, je le dis, moi, si un jour, c'est dans un CHSLD, j'emmenais-moi des clowns, là, tu sais. Parce que pour vrai, c'est ça, c'est la relation que t'as, c'est le fun, il n'y a pas de filtre. Quand t'es clown, les gens, ils s'ouvrent à toi, il n'y a même pas de...
Il n'y a pas de filtre, là.
Il n'y a pas de filtre, Fait que, ouais, ça, fait que ça, tu vois, pendant 5 ans, ça a été une bonne partie de ma vie. Puis c'était autant... T'sais, ça me remplissait de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais en même temps, c'était aussi dur émotivement. Il y avait beaucoup de... À un moment donné, j'ai dû faire un choix parce que je continuais aussi mes projets artistiques t'sais, de mon côté, spectacle d'humour, écriture. Là, je commençais l'écriture pour la télé. À ce moment-là, tout ça comme coordonné. Puis là, j'avais 3 enfants à l'époque, là, à la fin là, de Dr. Clown. À un moment donné, il a fallu que je m'assoie puis il a fallu que je prenne ça. Là, c'est une des... Je ne veux pas dire regret parce que c'est pas un regret comme tel, mais c'est une des dures décisions que j'ai dû prendre dans ma vie, là, puis faire comme « Ah ouais, je vais cesser de faire ce travail-là. » Puis en même temps aussi, c'est parce que c'est un travail qui n'est pas non plus... Ben en tout cas pour moi, parce que tout dépendant quand on est arrivé dans l'organisme, mais tu sais, c'était pas super stable dans le sens que oui, des fois, tu peux travailler beaucoup, puis des fois moins, puis tout ça. Fait que ça devenait difficile à coordonner avec plein, plein d'autres choses. Fait que, tu sais, il y avait comme un paquet de facteurs, mais pour vrai, c'est quelque chose que j'y repense souvent, puis que je fais comme, oh, Colin, mais très contente et donc juste très reconnaissante d'avoir pu vivre tout ce que j'ai vécu pendant ces 5 années-là.
Il y a dû avoir des moments assez marquants, là, que, en tant que clown, que tu as vécu. Y a-t-il une clientèle en particulier qui te touchait davantage? Y a-t-il une situation particulière qui t'a comme. qui est parfait parce que ces personnes-là, ils ont tellement apporté que des fois, une phrase ou une rencontre, ça peut changer, hein, des fois, toute notre parcours de vie, hein, finalement.
Ah, moi, là, c'est sûr que la reconnaissance de mes enfants, entre autres, là, de mes enfants à moi, de profiter de mes enfants, de profiter de, dans le sens de je suis très chanceuse, ils sont en santé, ils sont, tu sais, ça, là, c'est juste quand tu côtoies à temps plein, tu sais, quand tu arrives dans l'aile, mettons, justement, là, de oncologie, là, tu sais, puis que les parents sont là avec leurs enfants des mois de temps sans savoir, tu sais, hey, pour vrai, là, tu reviens chez vous, là, puis là, tu regardes là, ton enfant qui te tape sur les nerfs, je sais pas quoi, tu dis, hey, ça va être correct, hein, il y a pas de. Hein, il a dessiné sur le mur, ben ouais, c'est ça, tu sais, c'est. On va leur peinturer le mur. Tu sais, comme il n'y a pas, tu sais, ça remet en perspective beaucoup, beaucoup de choses. Fait que, tu sais, ça, là, ça de manière générale, mais sinon, tu sais, je me rappelle d'une anecdote qui m'a toujours marqué aussi, bien, c'est une petite fille. Donc, les soins palliatifs étaient quelque chose. Soins palliatifs pédiatriques étaient vraiment quelque chose intense à chaque fois. De voir à quel point ces enfants-là, peu importe leur âge, là, ils sont tellement. C'est juste avant, donc quand ils sont en soins palliatifs, ça veut dire que c'est bientôt là, la fin de vie. Là. Ils sont tellement sereins. Là. Il y a comme quelque chose de super rassurant là-dedans puis de réconfortant. T'sais, pour n'importe qui peut avoir peur de la mort des fois, là, ou ce que tu fais, il y avait quelque chose de vraiment rassurant. Toujours le même désir de ils s'en font plus pour leurs parents que pour eux-mêmes. Tu en arrives toujours à là. Puis bref, à un moment donné, on est allé puis il y avait une petite fille d'à peu près 4 ans qui est là, donc elle est en fin de vie, puis elle est assise dans une chaise roulante, elle est à une table, puis elle fait de la peinture, tout ça, puis elle est avec sa mère, puis ils nous ont demandé, quand ils ont su qu'on était là ce jour-là, ils ont dit « Ah, oh, on aimerait ça qu'ils viennent », parce qu'on ne s'impose jamais non plus dans les soins palliatifs, t'sais, on s'entend, là, on n'arrivera pas en clown en faisant « Aïe, on ne sait pas où est-ce que la famille est rendue », puis tout ça. Mais là, c'est eux qui nous ont demandé de venir. Fait qu'on rentre avec mon collègue, je rentre dans la pièce, mais la petite fille est dos à nous, fait qu'on ne se voit pas. T'sais. Puis là, je me dis oh, « moi, je pars dans... » Moi, j'avais des bulles des fois, puis je partais. Là, je dis, oh, justement, on va prendre des bulles, on a plein, plein de bulles, puis on va faire plein, plein de bulles, ça va être vraiment beau, puis les bulles vont arriver de derrière elle, puis ça va tomber comme en avant d'elle, puis ça va être magique, ça va être écœurant. Fait que on part le festival des bulles. Fait que là, la petite fille, elle lève sa tête, elle voit les bulles, mais là, nous, on arrive sur le côté d'elle en même temps, puis là, elle nous voit, Colin a fait le saut. Elle ne s'attendait pas à avoir des clowns. T'sais. Ça reste un enfant de 4 ans, pareil. Là, fait que là, elle se tasse dans son fauteuil le plus possible pour être proche de sa mère. T'sais. Puis là, moi, je le vois, j'ai mon Dieu. Puis là, elle reste concentrée. Elle regarde sa peinture, puis elle nous ignore complètement, mais on ne sait pas trop si elle est traumatisée ou pas. Puis là, nous, on est comme des poules pas de tête. On a même non. Hey, c'est pas vrai qu'on va traumatiser une petite fille qui est sur le bord de mourir à quelques jours de sa vie. Ça l'a, c'est comme ça, aucun sens. Là, on l'a échappé. Là. Faut pas. Fait que là, on est là. Écoute, on essaye. Là, moi et mon collègue, on était là. Hey, ben oui, puis t'as-tu vu ça? Puis hey, les oiseaux. Écoute, on essaye un paquet d'affaires. Puis là, un moment donné, moi, je la regarde. Puis peu importe ce qu'on dit, ce qu'elle fait, tu sais, dans sa tête, ça fait, j'imagine, ça fait juste comme ils peuvent-tu partir, peuvent-tu partir. Là, moi, je me dis, on peut pas partir là-dessus. C'est horrible. Fait que, mais elle était fixée sur sa peinture. Fait que là, un moment donné, j'ai fait comme ah! Moi, je fais ma niaiseuse un peu, puis je dis, avant que je parte, on va partir, là, mais je dis, avant que je parte, je dis, pourrais-tu me faire un petit maquillage? Ça serait vraiment beau, tu sais. Mais moi, je fais comme si sa peinture, c'est du maquillage. Et là, elle me regarde, puis là, je le vois. Puis là, c'est juste ça, hein. Faut que tu aies juste ce lien, là. C'est un petit fil, c'est fragile, mais faut que tu l'aies. Elle me regarde, un peu genre, mais je peux-tu te maquiller pour vrai? Tu sais, comme, je peux-tu te le mettre d'en face pour vrai? T'sais? Puis là, moi, je dis, mais j'aimerais vraiment ça, j'aimerais ça, le mauve, là. Hey, ça, j'aimerais vraiment ça, peux-tu? Puis là, elle me regarde, puis elle fait, pour vrai? Puis je dis, ben oui, pour vrai. Hey, pour vrai, certain, pour vrai. Mais là, moi, dans mon gag, parce que moi, mon clown était comme ça, un peu ratoureux, tu sais. Moi, je pogne la tête de mon collègue, puis, tu sais, j'avance ma tête, mais je fais comme si c'était la mienne. Puis là, je fais comme, ah oui, vas-y, dans ma face quand tu veux. Puis j'y pousse sa tête vers elle. Hey, là, elle trouve ça vraiment, vraiment drôle. Fait qu'elle commence à y peinturer la face. Hey, moi, je suis... Elle éclate de rire. Elle éclate de rire. Il y en avait ses dents, il y en avait dans... Écoute, il y en a, là, beurré, épais de la peinture dans la face, partout. Puis là, moi, je... Puis là, lui, il était juste comme, tu sais, genre, il jouait le jeu aussi. Puis là, moi, je disais, moi, il en manque un peu sur le front, il en manque. Tu sais, voilà. Rire, là, cet éclat de rire-là, là, ça, je m'en rappelle encore. Bon, on est parti là-dessus, tu sais, puis après ça, hey, je pense qu'on a dû passer 10 minutes dans les toilettes à essayer d'y enlever, là, tu sais, la couche de peinture qu'il y avait en face. Mais on était parti sur ce rire-là. Puis là, après ça, tu sais, nous, on continue. On sait pas, on travaille, tout ça. Puis après, la famille, en fait, a réécrit à Dr. Clown, tu sais, probablement comme toi, Annie, ils ne savaient pas nécessairement, tu sais, ils ne connaissent pas nécessairement nos noms, ils ne remarquent pas, tout ça. Puis je pense que la petite fille est décédée comme 4 jours après notre passage. Mais tu vois, ces mots-là, ils ont été vraiment gravés parce que T'sais, elle nous remerciait parce qu'elle a dit à partir de ce moment-là, ça a été son dernier éclat de rire. Oh. Parce qu'après, ben, il y avait probablement beaucoup de douleur, fait, donc plus de sédatifs, plus de. T'sais. Fait que merci de nous avoir donné ça. Hey, là, t'sais, tu sais, ah, ça, là, tu, c'est clair, là, tu pleures, t'es juste. Mais une chance qu'on n'ait pas parti sur le ouais. traumatisme des bulles. Là, t'sais, mais on a eu. T'sais, tout ça, là, ça fait partie du. De ce que j'appelle un miracle, de la connexion, de tout ça. Tu sais. Fait que...
ben, je pense que ce que vous avez en dedans de vous, c'est une sensibilité aussi qui vous permet de détecter, de dire « OK, je lâche pas le morceau, il y a quelque chose là, il y a quelque chose... » Puis tu sais, vous êtes nourri de ça, puis ton instinct, justement ta sensibilité t'a permis de dire « OK, il faut que j'aille plus loin, je peux pas laisser ça comme ça. » Puis c'est ouais. ce qui a fait en sorte que tu as eu probablement... une force extérieure qui est arrivée puis qui t'a donné une idée quand t'as vu la peinture et tout ça, tu sais. Moi, je pense que toutes les actions qu'on mène sont nécessaires, sont reliées, y arrivent de quelque part, puis il fallait que ça arrive comme ça cette journée-là, tu sais.
Complètement.
Si les bulles auraient fonctionné, ça aurait peut-être resté comme ça.
Tout à fait.
Puis elle aurait eu un peu de plaisir, vous seriez reparti.
Ouais.
Et là, le fait qu'elle vous a, elle a eu peur, elle vous a ignoré. Tu sais, moi, je trouve ça fabuleux là, quand on raconte des histoires comme ça parce qu'on voit que tout est relié. Tu sais, ça arrive pour une raison, hein, les choses.
Complètement. Puis, tu sais, l'art du clown, là, puis hey, on fera une conférence sur le clown aussi une autre fois, là. Mais l'art du clown, c'est de il n'y a pas de filtre, tu comprends, mais beaucoup d'amour. Tu sais, le filtre, le clown est vraiment, dans l'échelle sociale, le clown, c'est le plus bas, tu sais, de la société. Mais pas parce qu'on pile dessus nécessairement, mais juste parce que lui, il aime tout le monde, mais il va dire ce qu'il pense. Puis tu sais, je vais dire cette dernière anecdote-là pour le clown. Avec les personnes âgées, à un moment donné, même situation, on est dans un CHSLD, on se promène, et il y a un monsieur en fin de vie, toute sa famille est là. Quelques heures, probablement, ou quelques, tu sais, bon. Puis là, il nous voit dans le corridor, puis il nous appelle. Parce qu'en général, avec les CHSLD, on n'y allait pas vraiment en soins palliatifs. C'était quand même plus délicat parce que je disais que les gens avaient quand même des préjugés souvent envers les clowns avec les personnes âgées. Fait que, tu sais, on n'y allait pas vraiment. Mais là, il nous interpelle, on y va. Le monsieur a été clown toute sa vie. Tu comprends? On rentre dans la chambre, on voit ses enfants. Ils sont peut-être 8, 10 autour. Là. C'est vraiment la fin de vie. Puis c'est ça qu'ils nous disent. C'est un signe pour eux autres de nous avoir vus parce que monsieur, il a été clown toute sa vie. T'sais. Fait que là, nous, on embarque, moi et ma collègue, on embarque, on fait. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on prenne un peu de son savoir? T'sais? Parce que nous, là, on a besoin d'avoir cette expertise-là. T'sais. Ils trouvent ça bien drôle, t'sais, on est là-dedans. Fait que ma collègue, elle s'approche du monsieur, puis elle dit, OK, puis on avait plein de gadgets, là, t'sais, sur d'autres entiers, on avait de la lumière, tout ça. Fait que là, elle sort comme un pouce lumineux, tout ça, puis elle fait comme un transfert de connaissances de lui à nous. Puis là, nous, on part, puis souvent, c'est très musical avec les personnes âgées. Fait qu'on part, puis on commence à chanter une chanson. À mon souvenir, je pense que c'était You Are My Sunshine. Je pense You Are My Sunshine. Non, non, bon. Fait qu'on chante ensemble, on a un petit œuf, on shake ça, Anna. Tout le monde se met à pleurer, puis tout ça. Puis là, nous, on se dit, voyons, non, la toune n'est pas si triste que ça. On n'en rend pas. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que cette toune-là, c'était la toune préférée du gars. Ah! Mais nous, on le sait vraiment pas. Fait que le moment, là, il est beau, il est intense, il est parfait. Tu comprends? Quand on finit cette chanson-là, puis que tout le monde pleure, puis que quelqu'un arrive à nous dire que c'était sa chanson, que là, on vient de vivre ce moment-là, qu'on a pris, tu comprends, son expertise. Là, nous, on a des frissons. J'en parle, j'ai des frissons quand je le revois. Et là, on est dans ce moment-là. Et ma collègue qui a dans ses poches, comme n'importe qui, on a plein de gadgets, elle a une machine à pète, tu comprends? Et là, dans ce silence-là où on est tout en communion, un gros un pet sonore toi, qui part. Et là, moi, je regarde ma collègue puis je fais, moi, je trouve que c'était pas vraiment le timing, tu comprends, de partir la machine à pète. Fait que je la regarde. Puis mon clown, on peut pas, il n'y a pas de fil. Tu fais, hey, là, tu l'as échappé un peu. Là, tu es allé trop loin. Hein? Puis le monde, ils sont un peu mi-figue, mi-raisin, genre, ça repart, le pet. Là, je suis là, hey, non, pour vrai, elle comprend pas vite. Mais ça l'a fini en éclat de rire, OK? Mais moi, mon clown, ma vraie personne, trouvait que ça n'avait pas de sens. Fait que donc, mon clown le traduit, tu comprends? Mais quand on sort de la chambre, on va un peu plus loin, on se cache dans le cordon, on enlève notre nez, tu sais, puis je fais qu'est-ce que c'était ça? Puis elle fait, je l'ai accroché. Tu sais, elle a jamais voulu que ce soit intentionnel, Mais Colin, parce qu'on est passé là, des larmes au rire, là. Hey, c'était une chance qu'on a récupéré ça. En fait, moi, je l'ai sorti. C'est sûr, ça a fini de même. Je disais, là, j'ai dit, je suis désolée. Là, on va la sortir. Je vais aller, on va faire des plaintes. On va. Puis tout le monde riait de cette affaire-là. Puis, tu sais, elle a rougi pour vrai. Je la revois encore. Là, elle était. Voyons donc. Hey, c'était magique. Mais ça, des moments, tu sais, c'est ça. C'est ça, l'emploi. C'est que tu ne sais jamais. Tu as cette sensibilité-là. Mais c'est aussi, c'est vrai que c'est très demandant. Énergiquement parlant, si on peut dire. Là, parce qu'il faut toujours que tu sois on. Là, tu peux pas rentrer dans une chambre et faire comment. Non.
T'sais. Tu peux pas en manquer une. Là,
non. Ben non. Parce qu'imagine, comme Annie, tu disais, tu avais 16 ans. Là, si les clowns ils sont fatigués et ils arrivent, là, tu peux pas. tu peux pas. Là.
Non, mais c'est ado.
Excuse-moi, Annie. Il faut dire que moi et Annie, on est en larmes puis qu'on rit, on pleure de rire. Là, puis moi, depuis tantôt, j'essaie vraiment de me retenir pour pas.
On n'entendra même pas l'histoire à Émilie. On va juste entendre Sylvie dans le micro tout le long du podcast.
Enfin, ouais, c'était bon, ce podcast-là.
Sérieux, je braille, c'est mourant.
Oh, ah, mais ça, bon. J'en ai plein. On en a plein de. Tu sais, il y en a plein d'anecdotes.
Dans cette histoire-là, tu sais, ce qui est quand même beau, c'est que vous avez réussi à faire rire le crowd qui était là. Puis ce monsieur-là, ben, il a fait ça toute sa vie, faire rire le monde.
Ouais.
Fait que, tu sais, le fait que ça l'a fini, entre guillemets, en éclat de rire, ben encore là, faut voir qu'il y a une signification qui était là, puis que le fameux pet, il a été là pour une raison, tu sais.
Oui, effectivement.
Puis, tu sais, probablement que ça a été très représentatif de sa personne à lui. Hein. Fait que, tu sais, moi, je trouve, en tout cas, je trouve qu'il y a une synchronicité dans la vie là, qu'on peut pas manquer. Puis que, justement, des moments comme ça, c'est cette beauté-là qui arrive des choses vraiment comme incongruentes, mais qui arrivent quand même. Puis ça. Écoute, moi, j'en ai vécu là, des choses dans ma vie par rapport à tout ça. Puis il y a des bouts de ma vie que je me dis, hey, ça, là, c'était pas des add-ons. Là, ça. Ça avait à être comme ça.
Ça avait lieu. Ouais.
C'est ça, exactement. Fait qu'écoute, c'est contente que vous ayez accroché le pet.
c'est ça, exact. Puis souvent, c'est de faire avec l'imprévu, là, tu sais, comme on ne savait pas. Mais en même temps, il y a aussi des beaux moments. Tu sais, il y a vraiment des. Non, moi, je pense que le clown thérapeutique est vraiment très nécessaire à plein de niveaux. Puis on ne le connaît pas tant que ça, tu sais, dans la société, là, tu sais. Puis évidemment que dans un hôpital, médecin, infirmière, préposé, tu sais, on n'est pas cave dans la priorisation des besoins. Mais je pense que le clown est pas très loin, tu sais, est pas très loin derrière parce qu'il donne. Il donne soit de l'espace pour ventiler, il donne l'espace pour canaliser ou il donne l'espace pour rire, dédramatiser. Fait qu'il y a beaucoup de ça, puis je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer.
Puis tu vois, là, ça fait même pas quoi, une demi-heure qu'on jase, là. Puis moi, tu me fais un bien immense en ce moment. J'avais besoin, hey, regarde, c'est la synchronicité encore. J'ai accepté de venir à mon podcast, ça me fait un bien immense dans ma vie en ce moment. Fait que, mais là, ça m'amène à te poser la question, tu sais, dans ton parcours, t'as fait un show qui s'appelait Accoucher de rire. Yes. Où est-ce que tu invitais les mamans à être avec toi, avec leur bébé? Moi, ça me fait complètement capoté parce que, comme tu sais, moi aussi, j'ai eu 4 enfants. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, tu t'emmerdes un peu là, dans ton congé de maternité, on va se le dire. Puis là, ben toutes tes amies te disent « Hey, Annie, tu viendrais-tu à ce show-là? » Ouais, mais là, c'est parce que moi, j'allaite, tu sais, je peux pas aller là, mon bébé prend pas le biberon. Ah, c'est moche un peu, tu sais. Mais là, écoute, j'aurais aimé ça te connaître avant, là, mon bébé, ben oui. Il y a 2 ans. Fait que...
Comment ça, t'es-tu en train de me dire que t'es jamais venue à mon spectacle? C'est-tu sûr que t'as, t'as 4 enfants? Hey.
Non, je te jure, j'ai jamais été. Là, il va falloir que tu
fasses ton tournée, peut-être.
Là, il y a un problème. Non. Ben oui, absolument. Dans le parcours, tu vois, c'est si on continue un peu, là, ça se chevauche, c'est bien. Tu sais, j'ai fait pendant 10 ans quand même. 10 ans, Annie. Fait que, s'il te plaît, t'étais... non, mais tu sais, on s'entend, là, je n'étais pas Lise Dion, là, fait que c'était pas non plus comme « Oh, Louis-José Houd est en tournée! »
Là, je m'excuse publiquement, là. J'avais pas entendu parler de toi, je m'excuse, mais là, sais-tu quoi? Je te rencontre, puis je te promets, là, je vais aller à tous tes shows prochains. c'est
le premier.
Mais là, à notre défense, moi, je te connaissais déjà, fait que moi, merci. Je t'ai vu, j'ai vu un bon extrait de ton spectacle « Accoucher de rire ». Je suis pas mal certaine que c'est... Ouais, c'était celui-là que tu avais fait au défi allaitement de Trois-Rivières. Je pense que c'était en 2018, peut-être, autour de...
Peut-être plus tôt.
Ouais.
Peut-être, okay. Mais oui, définitivement dans un centre d'achat.
Oui, genre. C'est ça. Ben moi, c'est là que je t'ai rencontrée parce que j'étais exposante, hein, évidemment, pour voilà. Cigogne et Belchat. Fait que oh! J'ai vu, moi, en spectacle. Okay. Bon. Et j'ai pleuré de rire, effectivement. On adorait, puis on voyait toutes les belles mamans durant le défi allaitement en train d'allaiter.
Oui.
Leur bébé, c'était super significatif, puis j'ai trouvé ça tellement brillant d'inviter Émilie Ouellette pour ce spectacle-là, dans ce type d'événement-là. Là, vraiment, ça a été très...
C'est ça. En fait, tu vois, ce qui est arrivé aussi, tu sais, tantôt, je parlais de est-ce que ce que je fais a du sens? Ou peut-être moi, je me rends compte que ma création artistique va toujours être entourée de sens. Pour moi, là, maintenant, je l'assume. Tu sais, avant, je ne le savais pas, j'en étais consciente, là, je l'assume. Puis donc, quand je suis revenue à l'humour, pas longtemps, j'ai eu ma première fille. Puis je me rappelle que j'avais plein, tu sais, j'avais tellement d'anecdotes, tellement d'affaires à dire sur la grossesse, sur l'accouchement, sur les nuits, sur l'allaitement, sur, tu sais, plein d'affaires. Mais en même temps, je ne voyais pas où je pouvais les dire parce que je me disais, quand tu es humoriste de la relève, tu vas dans des bars, ça ne m'intéressait pas tant. Je me disais, ça ne va pas intéresser tant non plus les personnes de 20 ans dans des bars. Tu sais, j'étais comme un peu pris là-dedans. J'étais pris dans un cercle vicieux là, dans ma tête, mais aussi dans la société. Puis tout ça. Puis quand j'ai eu mon fils, donc à peu près 2 ans plus tard, je me rappelle que j'avais rencontré Louise Richer, qui est la directrice de l'École nationale de l'humour. Puis elle a tellement été chouette parce qu'elle m'a dit, « Émilie, tu te poses trop de questions. » Tu sais, elle dit, un humoriste là, ou une humoriste, ça crée selon ce que ça vit, ce que ça observe, tout ça. Puis elle dit, « Toi, si t'es en plein dedans, puis c'est ça que tu as à dire, c'est comme, dis-le. » Puis elle m'a dit, « Penses-tu vraiment que tous les gars humoristes, à chaque fois qu'ils ont eu un enfant, ils ont tous fait un number sur leur femme qui accouche. » Elle dit, « Là, toi, c'est comme, c'est toi. » Là,
oui, c'est toi qui l'as vécu. Là.
Exact. Fait que moi, là, moi, je fais jamais rien à moitié, là, paraît-il. Fait que j'ai fait, « OK, mais on va faire un show, on va faire juste un show. » Accoucher de rire. Tu sais, je dois être nichée, là. Je dois être nichée. Puis pour moi, il y avait le contexte, donc. Il y avait aussi le « je vais le faire en après-midi », puis les parents vont pouvoir venir avec leur bébé d'un an et moins. Donc, tu sais, ça, ce qui correspond pas mal au congé de maternité, là, au congé parental, là, un an et moins. J'ai déjà essayé avec plus qu'un an, là, tu sais, les bébés de plus qu'un an, puis ça a été atroce. Ça a été atroce parce que le show, c'est pour les parents, tu comprends? Moi, je me suis retrouvée avec des enfants de 2 ans qui montaient sur la scène et m'offraient des biscuits. Avec des parents dans la salle tétanisés. Moi, je suis comme, Colin, hey, tu sais, ça. Maintenant, on a dit non, je pense que c'est un an et moins, hein, parce que c'est ça.
Ouais, ouais.
Dans les meilleurs cas, là, pour moi, le meilleur scénario, c'est quand on m'engageait, que je faisais le spectacle, puis ils offraient un service de halte-garderie en même temps. Puis ça, c'était comme le meilleur scénario possible. Mais oui, fait que là, ça, j'ai fait ça pendant 10 ans. Écoute, puis ça l'a toujours, tu sais, on s'entend, ça n'a jamais été des shows. J'ai jamais eu des salles de 2000 personnes, tu sais, c'était pas ça le but. Mais tu sais, avoir une centaine de bébés dans la salle avec, tu sais, plus ou moins à peu près entre 50 et 100 parents, là, t'sais, mettons, ça pouvait varier en ça, entre 50 et 150 personnes, là. Mais ça a toujours été magique, là, de voir tous les bébés, de voir les mères relax. J'amenais des petits tapis, là, il y avait des tapis de jeu, fait qu'il y avait les bébés à quatre pattes qui étaient là, il y avait... tu n'avais pas besoin de sortir, là, j'installais le truc pour changer la couche, il y avait le stationnement à poussette, il y avait... Tout est là, il n'y a pas de. Y a rien de. T'as pas à stresser. Si un bébé pleure, on sent. Il n'y a jamais eu de silence dans mon show. Il y a toujours un gazouillis, un bébé qui pleure, puis tout ça. Mais en même temps, tu vois, il y a des affaires. Il y a toujours une place dans mon spectacle, toujours la même, moi j'ai remarqué ça, où je devenais très émotive. Il y avait comme un bout qui était plus émotif. Puis les seuls moments de silence dans mon spectacle, bébé inclus, c'était là. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Ben, j'ai fait. Wow, je pense que l'émotion se transmettait aux parents, puis ça devait se transmettre, je pense, aux enfants. Là. Il y avait quelque chose de magique, toujours à la même place. C'était assez c'était spécial.
Et quelle est cette place?
Non. Non, mais il y avait un moment, dans le fond, c'était un moment où je prenais le temps moi-même de quand je finis mon premier accouchement, puis je parle de cette rencontre-là que j'ai faite avec mon bébé, puis du moment spécifique où je suis tombée en amour avec ce bébé-là. T'sais. Fait que c'est sûr que ce petit 2 minutes-là où j'en parlais, je revivais toujours cette émotion-là, tu comprends? Elle me remplissait comme à chaque fois. Fait que je pense que tout le monde, on était fébrile, tu sais, au même moment. Tu sais. Fait que c'était... c'était vraiment beau. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce spectacle-là.
Mais surtout, ça devait être encore plus émotif quand que, tu sais, toutes les mamans qui étaient là, tu sais, on est vraiment hormonal, puis on dirait qu'on l'a vécu la veille, là.
Ouais.
Donc, mais tu sais, même moi, je sais pas, là, écoute, mon dernier a 2 ans, mon plus vieux a 7 ans, puis tu me parles d'un accouchement, là, Cathy, quand elle va faire des accompagnements à la naissance, là, puis là, elle me dit, je m'en vais à un accouchement, Annie, moi, je suis comme, ah, oh, t'es tellement chanceuse, puis là, quand elle me dit, elle me raconte, tu sais, des fois, comment ouais. ça s'est passé, puis là, je viens les yeux pleins d'eau, puis je me dis, aïe, ah, t'es tellement chanceuse de vivre ça, tu sais.
Ah, fait c'est que... Ah, on s'entend, là, tu sais, pour vrai, là, tu sais, l'accouchement, peu importe comment il est, là, tu sais, je veux dire, c'est intense, c'est magique, c'est un bouleversement à plusieurs niveaux, puis, tu sais, moi, ce spectacle-là, c'est... T'sais, je l'ai commencé, j'avais 2 enfants, j'ai fini, j'en avais 4. Fait que, t'sais, moi, j'ai fait de la tournée avec mes bébés, t'sais, mais j'allaitais avant, j'étais enceinte. Là. Hey, à un moment donné, je me rappelle, j'avais comme une côte faillée. J'étais enceinte de 8 mois, puis j'avais eu comme. J'avais une quinte de tout, je m'étais faillée une côte. Puis là, j'étais là sur scène, j'étais là, ça se peut, je m'assois des fois. T'sais, les gens de Colin, on peut-tu rire ou ça va-tu? J'ai eu des bébés dans les coulisses sur scène. Je me rappelle, il y avait, des fois, mes bébés étaient dans la salle. Ça aussi, c'était assez magique. Je me rappelle, en fait, la première fois que j'ai fait mon spectacle, mon fils avait 4 mois ou 6. Non, je ne vais pas te mentir, il avait 6 mois. Puis, puis j'avais une amie qui prenait soin de lui, mais dans la salle. Puis il y a toujours, il y a juste ça, des bébés qui pleurent, qui sont dans la salle. Mais à un moment donné, mon fils s'est mis à pleurer et j'ai reconnu.
Mm.
Puis ça m'a fait, là. J'étais sur scène, j'ai fait, oh, j'ai dit ça, c'est le mien. Mais tu sais, le monde est comme « What? » Puis là, mon ami était là « Oui, oui, ça va. » J'étais là « T'es correct? » Tu sais, c'était de reconnaître les pleurs de son bébé, là, c'est fou là, quand même. Vraiment, là. Puis j'ai eu la chance d'aller, là. Écoute, dans les dernières tournées que j'ai faites, je suis allée avec ma plus jeune qui a 3 ans maintenant, au Yukon. Hey, je suis allée dans la francophonie canadienne, là. J'ai pu... Puis elle, donc, Yukon, elle a 4 mois. Quelqu'un là-bas s'en occupe pendant que je suis sur scène. C'est fou, là. J'ai vécu plein d'affaires. C'est malade.
Mais t'as tellement l'air d'être une fille intense parce que, tu sais, nous, on s'est parlé par message, mais là, t'as 4 enfants, t'es humoriste, t'es scénariste, t'es autrice. Puis là, tu fais en plus l'école à la maison. Comment tu survis à tout ça, toi?
Hey, moi, là, je pense, j'ai plus envie de dire aux autres, comment vous faites pour que vos enfants aillent à l'école? Parce que... Non, mais dans le sens que... C'est pas... Non, mais mes enfants ont été à l'école, c'est la première année qu'on fait l'école à la maison, fait que c'est pas... C'est nouveau pour moi, mais c'est quelque chose qui trottait dans ma tête depuis longtemps, mais je savais pas comment j'allais conjuguer la job, je savais pas, tu sais, il y avait plein d'affaires. Mais tu sais, là, se lever super tôt le matin, faire des lunchs, rusher pour aller chercher les enfants avant que ça finisse... Le soir, là, les prendre dans cette énergie-là, essayer de se connecter, avoir 2 heures pour faire toutes les affaires, retourner se coucher. Pour vrai, c'était intense. Mais tu sais, la pandémie a donné vraiment le go pour moi que je. Mais là, je ne souhaitais pas une pandémie, là, on s'entend, on rectifie ce que je dis, là, mais dans le sens que ça nous a permis d'expérimenter ce qu'on n'aurait peut-être pas été game de faire sans le savoir. Là, j'ai aussi un fils qui a plus de difficultés, il y a un TDAH, il y a une dyspraxie. Fait que, tu sais, l'école, c'était tough pour lui, dans le sens de même son bonheur, tu sais, il n'existait pas, là. Puis son estime de soi allait là, de plus en plus bas. On a vécu aussi, moi, mes enfants sont métissés, mon chum, il est noir, il y a eu des histoires de racisme à l'école de mes enfants. Mais... Ouais, vraiment. Oh, puis, fait que, puis là, on parle dans le personnel enseignant, tu sais, fait qu'on était loin du racisme systémique, tu sais, on n'est pas dans du racisme direct, on est dans quelque chose qui est intense. Puis aussi, ça en sera une autre conférence, hein, va falloir qu'on se reparle.
Hey, mais, oui, mais là, tu reviens quand tu veux, là, moi, ben, c'est ça.
Ça va être un abonnement, mais c'est ça. Fait que ce qui fait que quand la pandémie est arrivée, ça l'a aussi. On est en plein dans cette affaire-là, dans cette situation-là. Fait que ça nous a permis de prendre du recul. Puis on s'est rendu compte qu'on était bon à la maison, tu sais, qu'on était capable de le faire. Fait qu'en septembre, on a réfléchi vraiment. Puis après ça, on a fait comme non, on va. Puis la pandémie était. Donc c'était clair qu'on allait les retirer de l'école où ils étaient. Mais là, je me disais, c'est chiant, on va-tu les envoyer dans une nouvelle école en pleine pandémie, masque, tu sais, pas d'amis, pas, tu sais, fait que j'ai fait comme on va, essayons cette année, puis on verra l'année prochaine. Mais la réalité, c'est que, pour vrai, c'est vraiment trippant dans le sens que, tu sais, on a quand même, moi, je fais pas du unschooling, j'avais besoin de partir avec des repères que je connaissais, donc un horaire, j'avais besoin, mais je me rends compte, c'est ça qui est beau, c'est que, tu sais, septembre, je pouvais être vraiment tête, là, tu sais, dans genre, on a un horaire, puis c'est seté, puis tu sais, tout ça. Puis je me rends compte que plus ça va, plus on apprend tout le temps, finalement. Tu sais, les apprentissages, là, c'est tout le temps. Puis je fais plus confiance à mes enfants. on est un peu moins rigide dans cet horaire-là. On le garde pareil, mais c'est vraiment beau. Fait qu'on se laisse inspirer par eux et vice-versa. On apprend. On apprentissage. Hein? Je vais le dire un mot. En apprentissage, tout le monde. Voilà.
Hey, c'est tellement drôle parce que on a reçu à un autre épisode la sœur de Cathy, Marie-Claude. Puis écoute, elle aussi a fait l'école à la maison, puis elle a dit exactement les mots que tu viens de dire, qu'on est toujours en apprentissage. Fait que écoute, c'est beau de vous entendre, puis ça fait longtemps, hein, Cathy, que moi je dis j'aimerais peut-être ça faire l'école à la maison, mais sérieux, je ne sais pas comment vous faites, les filles, de faire l'école à la maison.
Mais qu'est-ce que tu sais pas comment on
écoute,
fait?
Écoute, moi, là, aujourd'hui, là. Bon, mon bébé, là, bon, là, on est en test COVID. Là. Un matin, moi, j'ai été me faire dépister. Mon bébé aussi, il était malade pendant 2 jours. J'ai eu mon coco de 4 ans qui s'est collé la langue sur un marteau en fin de semaine dehors. S'est arraché la langue. Fait qu'hier, j'avais mon 2 ans, mon 4 ans qui était à la maison. J'ai jamais été capable de travailler. Puis écoute, mon chum, il est là, là. Mon chum, il est là. Fait que j'ai pas été capable de travailler. Puis là, ben, à matin, ben, là, vu le test de la COVID, Édouard, il est ici. Pas capable de travailler non plus. Sérieusement, je ne sais pas comment vous faites pour...
Ben, c'est parce
avec
que...
les grands, les petits, et hey boy!
Ben, c'est parce que toi, c'est pas prévu dans ton horaire. Fait que ça fit pas, tu comprends? Mais ça demande énormément de communication. T'sais, moi et mon chum, on se split l'horaire. Là, c'est comme moi, je le sais que j'ai besoin de travailler, là, sinon j'aurais pas d'espace pour travailler. Puis lui aussi. Fait que c'est ça que ça demande. Ça demande qu'on regarde l'agenda et on fait là, c'est quand c'est toi qui es on, c'est quand c'est moi qui est on. Nous, tu sais, mon chum, lui, il avait un job où il enseigne le français à des nouveaux arrivants, puis c'était les matinées. Fait que ça a été pas mal ça pendant longtemps. C'est-à-dire que moi, je suis responsable des matinées, lui, il est responsable des après-midi. Fait que déjà, on arrive à splitter comme ça. Puis je travaille plus de soir aussi. Puis tu sais, on se tag comme ça. Mais après ça, quand je te disais le truc de l'horaire, là, c'était aussi pour organiser les 4 enfants. T'sais, moi, ma plus vieille a 12 ans, ma plus jeune a 3 ans. Ma plus jeune ne fait pas d'école. T'sais. Fait que c'est beaucoup de jeux libres, mais à un moment donné, les jeux libres, c'est comme wow. fait que c'est de penser à des activités puis tout ça, mais de plus en plus, nous, on l'a divisé en périodes. Fait qu'on a des périodes dans lesquelles on a des sujets. Moi, des fois, je suis 1 à 1 avec quelqu'un, mais les 2 autres, ils savent ce qu'ils font. Mais tu vois, ce qui est hot, c'est que tout ralentit, le rythme ralentit. C'est-à-dire que moi, le vendredi, il y a toujours un temps, ils ont leur agenda, parce que mon but, c'est aussi de créer l'autonomie. Tout ça. Fait que le vendredi, on fait l'agenda, on marque tout l'horaire de la semaine d'après, et le lundi matin, quand on commence, on remplit, c'est-à-dire qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, mais là, je vais le remplir directement, c'est-à-dire, OK, mais toi, là, mettons là, en français, tu fais quoi? Puis on avait déjà établi toute une liste de... On a des jeux de société, on a des jeux... Tu sais, fait que c'est pas nécessairement tu t'assois puis t'apprends en écrivant sur une feuille. Il y a tel jeu de mots, il y a tel... tu sais, il y a Duolingo, il y a... Tu sais, je n'aimerais quoi, là, il y a des applications, il y a tellement d'affaires. Tu te rends compte quand tu commences l'école à la maison qu'il y a une communauté de parents qui font l'école à la maison, qui ont des trucs, qui ont des... Tu sais, fait que ce qui fait que... Moi, mes enfants, là, on est rendus à même... Tu sais, je veux dire, c'est pas une année scolaire complète, là, mais c'est rodé, là, tu comprends, là? Tu sais, je veux dire, quand on a commencé le podcast tantôt, il n'y a pas d'autre adulte qui est l'autre bord de ma porte de jambes fermée. Là, je sais, j'ai entendu mon chum arriver entre-temps, mais je veux dire, il est tout en train de faire des maths, tu sais. Fait que j'ai pas besoin d'être là à côté d'eux tout le temps, que là, maintenant, ils savent c'est quoi l'horaire, mais on y prend goût. Puis sais-tu quoi? La journée où ce que ça fait comme « Hey, vous êtes vraiment pas dans le mood personne, puis moi, je suis pas dans le mood de me battre avec vous autres », on va-tu prendre une marche dehors? Mm-hmm. On va-tu... Hey, fait que les liens que tu as avec tes enfants, moi, c'est ça ma plus belle surprise d'école à la maison, c'est la qualité du lien que je développe avec mes enfants, d'être à leur écoute, de leur permettre, tu sais, comme je disais tantôt, mettons, mon fils a un TDAH, là, mais si mon fils, là, son déficit de l'attention, il pète dans le tapis, là, ben... Hey, ça se peut, je le sens, je le vois tout de suite. Puis je fais comme, là, as-tu besoin de te lever et d'aller faire autre chose? Oui, puis vas-y. Tu sais pourquoi je le forcerais à
rester à faire ça? De toute façon, il ne sera pas disponible à l'apprentissage.
Exact.
Il ne sert à rien. T'sais.
Mais ce qu'il devait faire à l'école tout le temps, par exemple, tu comprends? Ouais, il arrivait le soir et il pétait des coches parce que ça avait été trop demandant. T'sais.
Oui, puis il n'apprenait pas à ce moment-là, non. Donc ça ne servait à rien.
Exact. Ça, c'est l'autre affaire. Merci, Cathy. Tu m'amènes à l'autre point. C'est que tu te rends compte qu'un 30 minutes par jour, mettons, très concentré, là, hey, c'est bien correct. Puis que dans tout le reste, il y a juste ça, des apprentissages. Il y a juste ça. Fait que, tu sais, si je m'assois 30 minutes avec toi pour faire de la lecture, texte, je sais pas, peu importe, ben c'est parfait parce que le reste du temps, quand tu vas construire ton château Lego, tu es en train de faire du raisonnement mathématique. Tu es en train de... C'est ça que tu apprends à lousser un peu, je te dirais.
Exactement. Puis comme on parlait avec ma soeur Marie-Claude, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de temps pour apprendre. Donc, elle, ses enfants, c'est le soir. Le soir, les questions arrivent. Bien, ils font de l'apprentissage le soir. Ils font de l'apprentissage la fin de semaine. Donc, c'est pas parce que les parents, bon, Annie, comme Annie travaille, tout ça, que justement, il y a des périodes de la journée qui peuvent être au niveau des apprentissages. Puis je pense que ça, c'est une décision familiale et que le conjoint doit aussi embarquer dans cet univers-là en apportant des choses qu'il peut apporter aussi.
Complètement. Mais,
ouais, donc c'est fascinant. T'es re-écouté cet épisode. Ça
complètement. Mais oui. Parce que c'est toujours inspirant. C'est inspirant de s'inspirer entre nous aussi. Puis comme exactement comme tu dis, ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que, tu sais, moi, là, mes enfants, ils pourraient écouter de la télé toute l'avant-midi parce que moi, j'aurais besoin de travailler, exemple. Puis c'est en soirée que là, tout d'un coup, on ferait les apprentissages. Dans les questions, on s'est abonné à des magazines comme les Débrouillards, comme le... Hey, il y en a, là, des affaires, là. Puis tu sais, toi, tu te rends compte que chaque question amène vraiment... Un lot de tu sais, toutes les réponses, ou comment trouver les réponses, ou comment, je veux dire, il y a des apprentissages et je trouve qu'ils sont plus significatifs. C'est ça aussi que je trouve le fun. C'est que tu n'es plus juste en train d'apprendre du par cœur pour du par cœur ou de le comprendre parce que là, tu es en quatrième année, il faut t'apprendre ça en quatrième année. C'est non, t'as, l'enfant, il a l'envie, il a le besoin, il a l'intérêt, tu le pognes, puis là, tu fais comme go, on y va. Fait que là,
exact.
T'en rappelles plus, t'sais.
Mm-hmm. Je veux tellement pas rentrer là-dedans là, parce que j'en ai déjà parlé, mais moi, j'ai démissionné de la commission scolaire justement parce que le système scolaire ne me convenait pas. Puis je me rends compte à quel point que ça ne convient pas non plus à mes enfants, tu sais, dans le fond. Mm-hmm. Ils ne fitent pas là-dedans. Puis écoute, mon grand, là, il est tellement scientifique. Écoute, il a 7 ans, il écoute des documentaires. Là, c'est vraiment... Ouais. Là, et la baleine a dit... tu sais, c'est super slow-mo. Là, c'est vraiment impressionnant qu'il écoute ça à son âge. Mais tu sais, les femmes que j'entends parler, ben toutes les familles, dans le fond, qui disent qu'ils font l'école à la maison, moi, ça m'impressionne parce que, ben je faudrait... c'est pas pour rien que c'est tout le temps sur mon chemin. Ça revient tout le temps, c'est spécial. Ça revient tout le temps à l'école à la maison.
D'y aller. Tu vas sauter, là. Ça en vient, là.
Ben là, il va falloir que tu me coaches, là, premièrement. Ouais.
Non, mais tu sais quoi? T'as pas besoin de faire... Tu sais, moi, je suis très rebelle dans la vie, tu sais. Mettons, tu le sais pas, là. Tu ne sais pas si tu vas aimer ça ou je ne sais pas trop quoi. Mais pourquoi tu ne fais pas une semaine de test? On s'en fout.
Ouais.
Tu n'es pas obligé de dire hey, là, je retire mes enfants de l'école. Tu sais quoi? Fais-toi, prépare-toi là comme tu veux. Parle avec ton chum. Puis quand tu es prêt, là, tu dis à l'école que tes enfants ne sont pas là pour une semaine. On s'en fout pourquoi? Vacances, break, hey, on s'en sac comme de l'an 40. Là, tu n'as pas fait le saut. Tu n'as pas envoyé ta lettre au ministère. Tu fais juste un test. Mais en même temps, une semaine, c'est pas nécessairement représentatif. Mais toi, ça te donnerait un gauge de savoir comme hey, comment je me suis sentie là-dedans? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que, tu sais...
Ou des fois, tu peux prendre les vacances de Noël pour le faire. C'est quand même 2 semaines.
Ouais.
Dis, ben...
On l'a quand même expérimenté au début de la pandémie. Là, on s'entend. Mais ça a été quand même un big fail pour moi. Je pense que j'étais pas en état mental de me concentrer là-dessus. Fait que...
Mais il y avait une pandémie aussi.
Oui, ouais, ben là, c'est ça.
Je pense que ce qui est important aussi, c'est que ça, il faut faire face à nos propres préjugés, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une société de performance. T'sais. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que quand nous, ce qu'on a connu, c'est l'école régulière, tout ça, ben que tu arrives, puis là, tu fais comme là, ça se peut pas, faut que tu t'assoies, on va acheter des cahiers, on va, tu sais, comme. Puis que.
Ça prend des bulletins, ça prend.
C'est ça. Comment on va noter? Comment on le sait? Es-tu en retard? T'sais? Quand tu es beaucoup là-dedans, il faut que tu te laisses toi-même la chance de te déprogrammer, je dirais. Il faut que tu te déprogrammes, puis que tu fasses comme. Moi, là, j'ai une amie aussi qui, tu vois, qui a 6 enfants. Malade. elle fait l'école à la maison. Puis elle m'a tellement inspirée. Je pense que c'est important qu'on ait des personnes comme ça. Puis elle me disait, là, donne-toi un break. Elle dit, concentre-toi là, sur la relation avec tes enfants, le lien de relation. C'est juste ça au début. Concentre-toi sur le lien. Puis c'est ça que j'ai fait. T'sais, puis que j'ai fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Puis, au début, il faisait encore beau, là, septembre. Là, il faisait chaud, beau. Tous les matins, on allait jouer au ballon dans le parc. On allait, tu sais, on commençait la journée, le fun, comme ça. On a joué au ballon chasseur. Ça faisait combien de temps que je n'ai pas joué au ballon chasseur? Tu sais, puis c'est le fun quand tu as beaucoup d'enfants. Là, c'est plate pour toi, Cassie. Mais, tu sais, tu peux être 2 équipes, tu sais, comme tu peux, là. Juste comme, ah, c'est ton tour, puis t'es tout seul. Tu sais, non, on peut jouer à ce genre de jeu, puis ça marche, là, tu sais. Fait que, oui, c'est ça. Mais si ça revient toujours sur ton chemin, c'est parce qu'il y a peut-être une réflexion, un essai, une autre. Puis, tu sais, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de m'enlever la pression aussi, de me dire, c'est pas pour toute la vie, cette histoire-là. C'est-à-dire que, là, on l'a essayé, on l'essaie pour 1 an. Puis, tu sais quoi, si, là, en octobre, on s'était rendu compte que, hey, c'est ça, sérieux, ça marche pas, ben on les aurait ramenés à l'école. Tu comprends-tu? À un moment donné, il faut... relativement.
Décrocher un peu de...
Oui.
Bon, puis là, écoute, tu parlais tantôt que ta fille, elle avait 11 ans, 12 ans?
Elle a 12 ans, oui.
12 ans, là, c'est une ado?
Ben oui.
Puis là, les ados, moi, j'ai entendu parler que... Hey, mais non, mais tu sais, j'ai pas vu tes shows, mais je me suis quand même informée, là.
Merci.
Tu as écrit un livre pour les ados. Oui. Je veux tellement que tu m'en parles parce que, ben, on en a discuté un petit peu avant le podcast. Hein. Moi, les ados, c'est des jeunes que j'aime, que j'adore. Je travaillais avec les ados en troubles de comportement, en délinquance. Puis là, je me concentre beaucoup sur la petite enfance, mais il me manque. Puis là, j'ai entendu parler que tu avais écrit un livre, L'après.
Oui. Exact. Je te parle encore une fois, hein, dans le truc du sang. L'après, ce n'était pas un livre qui était prévu dans ma vie du tout, du tout, du tout. Fait qu'on est, on est début pandémie 2020. Moi aussi, j'ai eu la chance de travailler avec les ados il y a très longtemps, avant de sauter aussi dans la petite enfance puis dans la couchée de riz qui était très, tu sais, périnatale puis tout ça. Mais les ados, j'ai toujours trouvé qu'ils sont authentiques, ils sont, tu sais, pour vrai, puis ils vivent tout en même temps, pauvres autres, là, tu sais, tout est intense, les changements, le corps, les émotions, Colin.
Imagine en pandémie.
Mais non, c'est ça, mais tu vois, c'est ça, là. Fait que c'est une conjoncture d'affaires, OK? C'est-à-dire que on est en mars, en quelque part en mars. Je commence à déprimer un peu plus. Je pense que c'est normal. La pandémie rentre. Quand tu allumes là, que c'est pas juste deux semaines cette histoire-là. Moi, j'avais des contrats. On était comme des contrats d'écriture télé. Ça. C'était très humoristique ce que je faisais. C'est beaucoup de l'écriture. Puis là, j'avais plus tant envie d'écrire des jokes. Je trouvais ça tough. Je n'avais pas pitié, là, mais je trouvais ça tough. Puis j'avais envie de sortir quelque chose qui était peut-être plus dark. Il y avait déjà ça, dans ma tête. En même temps, on prend une marche un moment donné, puis ma fille, donc la plus vieille, elle commence à me parler. Puis à ce moment-là de la pandémie, on avait beaucoup de morts en Italie. Là, c'était vraiment hors de contrôle. Puis on entendait aux nouvelles que, bizarrement, ça ne touchait pas les enfants. Le virus, on ne le connaissait pas encore, mais ça ne semblait pas vraiment affecter les enfants de la même manière, je ne sais pas trop quoi. D'une manière ou d'une autre, ma fille a comme pris ça comme si tous les adultes allaient mourir. Puis que là, ça s'en venait. Et que là, elle allait prendre soin de ses frères et sœurs. Elle stressait pour ça, elle avait son cours de gardienne averti. Tu sais, comme, on marche dehors, mais là, j'entends son stress. Tu sais, à un moment donné, je vais dire, wow, wow, wow. Comme là, on va recadrer certaines choses, là, tu sais. Mais ça m'a donné un flash. Comment ça m'a donné ce flash-là du fait que s'il n'y avait plus aucun adulte sur la Terre. Tu sais, je suis très consciente, je n'ai pas inventé la roue, là, cette histoire-là, déjà. Tu sais, je veux dire, une dystopie, ça existe, que tous les adultes, ça, mais j'avais, tu sais, quand tu racontes des histoires, tu sais, comme mettons des histoires d'amour, je veux dire, ils ont toutes été faites, les histoires d'amour, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, fait que, ma fille a fait ça, j'ai eu le flash. Puis en même temps, c'est sûr que je pensais aux ados, parce que je me disais, oh my God, tu sais, quand tu es dans cette période-là d'affirmation, que tu veux être juste avec tes amis, que tu veux t'éloigner de ta famille, puis là, tu es pogné en bulle avec ta famille, puis là, l'école a fermé, puis là, on vient d'apprendre que l'école a fermé jusqu'en juin. Tu sais, comme, on était dans ce mode-là, là, puis j'ai fait comme, hey, ça doit pas bien aller. Fait que là, j'ai commencé à écrire cette histoire-là en me disant je veux rejoindre les ados, je veux qu'on passe ce boulot ensemble. Puis là, j'ai fait un parallèle vraiment cheesy avec moi, mais je me disais, moi, quand j'étais ado, j'ai eu la crise du verglas. Puis tu sais, c'est rien d'une pandémie, là. Mais je me disais, mais à l'époque, quand ça faisait 2-3 semaines de pandémie, moi, je me disais, hey, nous, on a eu un mois et quelques, il n'y avait plus d'électricité, il faisait frais, il n'y avait plus d'école, mais j'étais au moins, moi, j'avais mes amis, tu comprends? Dans le sens qu'on le vivait entre amis, je me disais, tout, ça doit être tough, ça doit être tough. Et là, bien naïvement, je ne savais pas comment rejoindre les jeunes parce que moi, je suis plus sur le terrain, tu sais, je suis plus en maison de jeunes, je suis plus en milieu scolaire. Les jeunes ne sont pas sur Facebook, tu sais, c'est comme Facebook, arc, ma grand-mère est là-dessus, tu sais, comme, c'est vraiment ça. Fait que j'étais comme, même Instagram, j'étais là, comment on va rejoindre les clubs? Il y a le merveilleux TikTok, hein, qu'on connaît. Fait que là, j'étais là. Moi, j'avais ouvert un compte TikTok, tu sais, mais tu sais, j'en comprenais pas trop, là, tu sais, fait que. Puis là, j'ai fait, bon, mais je vais essayer de rejoindre les jeunes sur TikTok. Puis écoute, c'est comme. Puis je me suis dit, je vais l'écrire un chapitre par jour. C'est ça que je voulais leur offrir. Je me dis, on va écrire un chapitre par jour, puis on se lâchera pas, gang. T'sais, on se lâchera pas, je vais être avec vous autres. C'est ce que je fais de mieux. En même temps, ça m'a permis de me décaler de l'humour, puis de dire, je vais aller dans quelque chose qui est un peu plus dark, qui est un peu plus vrai, mais je pense qu'il pourrait vous rejoindre. Donc, on est dans une histoire qu'il n'y a plus d'adultes, il y a un virus qui a tué tous les adultes de la planète. On est 8 mois plus tard, puis c'est 2 clans qui s'affrontent. On est sur un territoire où c'est juste des ados, tu sais. Puis il y a un clan qui contrôle complètement la nourriture puis l'accès à l'eau, puis l'autre, ben qui essaie de survivre aussi, comme d'autres. Fait que ça s'affronte, ça se confronte. Fait que, tu sais, c'est un suspense, c'est l'action. On est là-dedans. Puis ça l'a marché. Vraiment, là, comme j'ai été flabbergastée. Tu sais, j'ai fait comme, wow! Les premiers chapitres ont été téléchargés à plus de 8000 téléchargements. Sur TikTok, c'est devenu viral. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais comme « wow! » Mais de te dire... Puis là, mon compte Instagram, je me suis ouvert un compte Instagram pour les ados, a comme monté en flèche. Fait qu'à tous les jours, j'étais en direct avec les ados pendant peut-être 15 minutes pour leur dire « voici le chapitre d'aujourd'hui, comment tu as trouvé le chapitre d'hier, ça va-tu encore? Hey, chapeau gang! » Puis, wow. J'ai pas lâché ça, tu sais. Puis là, ben, la maison d'édition pour laquelle que j'avais déjà un autre contrat d'écriture, ils ont fait, ben nous, cette histoire-là nous intéresse, tu sais. Fait que finalement, ils ont décidé de la publier. Fait qu'il a fallu qu'au début de l'été, il a fallu que je retire mes chapitres gratuits. J'ai eu la chance de retravailler, c'était vraiment, tu sais, parce qu'un chapitre par jour, t'as pas de recul, là. Mais fait que j'ai eu la chance de la retravailler, de la ficeler, puis tout ça. Puis là, elle est sortie en octobre. Puis je suis super contente. Puis je suis super contente parce que ça rejoint beaucoup d'ados. Puis tu vois, ça, dans mon processus créatif, ça m'a appris quelque chose. C'est que j'avais pas de censure, j'avais pas de filtre. Parce que quand tu écris, que ce soit pour la télé, pour n'importe quoi, il y a toujours un système de filtre, tu comprends? Surtout pour les ados puis les jeunes. Parce que est-ce que pédagogiquement, ça rentre? Est-ce que, tu sais, là, il y avait pas de ça. Puis je pense que c'est pour ça que ça pogne. Parce qu'il y a de la violence dans mon livre, tu sais. Pour vrai, mais c'est pas de la violence graphique, là, je sais pas. Mais je veux dire, s'il y a juste des ados, il faut que vous êtes en mode survie, là, ben, il y a une couple de battes de baseball, là, tu sais, qui se balancent, là, tu sais. Fait que je pense que les ados, ils se reconnaissent, ils accrochent dessus. J'ai eu des super beaux témoignages de parents qui me disaient, hey, mes enfants lisent jamais. Ils ont pas été capables de lâcher ton livre. Ils ont pas, tu sais, fait que pour vrai, je suis vraiment juste... Ça, là, c'est ma révélation de l'année passée pour plein de choses. Puis j'ai décidé de... Moi, je ne peux pas lâcher les jeunes comme ça. T'sais, je ne peux pas faire comme... Voilà, j'ai sorti mon livre. C'était bien le fun. Fait que je ne serais plus sur TikTok. T'sais, comme ça ne marchait pas. Parce que si tu savais les confidences que j'ai... Là, c'est ça. Là, si je peux rapper cette histoire-là comme ça. Je suis contente d'avoir mon bac en travail social. Puis je suis contente d'avoir mon expérience d'intervenante avant. Parce que si j'avais 22 ans et j'aurais fait ce projet-là, je ne serais pas capable de dormir le soir. Mm-hmm. Dans le sens que je reçois tellement de messages d'enfants qui ont des idées suicidaires, qui ont des troubles alimentaires, qui ont de l'anxiété dans le tapis, qui ne savent pas comment parler à leurs parents, qui sont homosexuels, qui ne savent pas comment le dire, qui ne savent pas, tu sais. Moi, là, je reçois tout ça sur mon compte Instagram. À 22 ans, là, j'aurais capoté, j'aurais été hors limite, genre, j'aurais fait appelle-moi à mon concours, va, tu sais, j'aurais vraiment pris ça sur mes épaules. J'étais une intervenante comme ça au début, là, j'étais pas bonne, tu sais, j'arrivais pas à mettre de limite, tu sais. Mais là, avec l'expérience que j'ai, bientôt 40 ans cette année, tout de suite, tu sais, je fais, c'est pas à propos de moi, tu sais, ce que j'aurais peut-être pensé avant, pas que c'est à propos de moi, mais genre, comme la sauveuse, là, si tu veux, j'étais comme une intervenante de même. Là, maintenant, je suis beaucoup plus dans l'écoute, puis dans le... Je sais où te donner les bonnes ressources, tu sais, comme, je sais où t'amener. Fait que je t'accueille pour une première fois, puis je te laisse pas tomber, je te place. Fait que là, je me sens comme une mission sociale, tu sais, là, je peux pas... La mission sociale d'apporter du positif, parce qu'ils sont confrontés à beaucoup de choses dans les médias sociaux. Fait que je me dis, moi, c'est du hop la vie. Je te divertis, je t'écoute, je t'amène du positif. Puis si ça tente, tu me suis. Puis sinon, ben salut, tu sais. Mais là, fait que là, j'ai comme le hashtag ta mère virtuelle. Fait que c'est là-dessus qu'on peut me retracer sur TikTok.
Mais, ah, c'est bon!
Ouais, ouais.
Ah, oh, Colin! Eh bien, écoute, puis là, Émilie, c'est quoi tes projets là, pour prochainement? Là,
dormir! Écoute, mes prochains projets, j'ai un autre livre qui sort en mars pour les ados. Celui-là, peut-être plus 5e, 6e année secondaire 1, c'est à propos d'une petite fille qui justement rentre au secondaire. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a été inspirée, entre autres, parce qu'en étant en contact avec les ados, le nombre de la quantité de stress qu'ils vivent sur l'entrée au secondaire, c'est assez fou. Fait que là, j'ai dit, on va écrire une histoire là-dessus. Fait que ça, ce livre-là, il sort le 24 mars. J'ai vraiment hâte. Il s'appelle Fab. Donc, c'est à propos d'une fille qui s'appelle Fabiola, mais qu'on appelle Fab, qui va rentrer dans une école secondaire puis qui va découvrir le monde de l'improvisation. Puis ça, je trouvais ça cool de mettre en contexte une histoire qui tourne autour de l'impro. Ben, j'ai fait de l'impro pendant longtemps. Ça sort le 24 mars. Puis j'ai aussi la confirmation de ma maison d'édition que je vais pouvoir sortir le tome 2 de l'après. Fait que ça aussi, je suis vraiment contente. Fait que ça va être une année qui va être beaucoup en écriture. Je continue à donner, tu sais, je donne des ateliers d'écriture pour les jeunes du primaire, secondaire. Fait que j'espère avoir beaucoup de belles rencontres cette année. Je donne aussi une conférence qui s'appelle « De la discipline à l'humour » sur la gestion de l'humour avec les enfants, oui, pour les parents. Fait que, tu sais, on ne sait jamais de quoi l'année va avoir l'air, là, je ne sais pas, là, avec la pandémie et tout ça, mais on est beaucoup dans le Zoom, on se réinvente, mais ça va avoir l'air de tout ça. Puis je suis contente de cet équilibre-là que je semble enfin avoir trouvé entre création, expression artistique et le sens aussi de l'intervention. Fait que ça va être pas mal ça.
Hey, c'est super, my God! Hey, mais pour vrai, là, il va falloir qu'on se laisse un jour. Moi, mes
Oui.
enfants vont débarquer dans pas si longtemps de l'autobus et ça va faire un ravage, là. Moi, ils sont pas tranquilles à faire leurs mathématiques chez
Et en tout cas, en tout cas.
eux. J'ai bien des diplômes, mais ça,
En tout
quand
cas,
t'as
mais tu
des enfants.
suivras ma conférence de la discipline à l'humour.
Tout à
Hey,
fait.
on en bâtira une ensemble, si tu
Ben absolument.
veux. Écoute, un énorme merci, Émilie. Sérieusement, ça a
Ben, merci à
été.
vous.
Ben, 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 ben du bonheur dans ma vie de pandémie en ce moment. J'ai ri, j'ai pleuré.
Toutes
Ça a
les
été chouette.
émotions, hein, cet après-midi, là, vraiment.
Ouais, on a mis à l'épreuve notre périnée. Hein, on va le
Oui.
dire comme ça.
Ben, du coup,
Alors,
il a l'air de
on
bien
tire sur ça.
fonctionner.
Ça fonctionne, mais on a retenu, Caroline. Non, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours très, très chouette.
Hey, mais ça fait un énorme plaisir. Puis écoute, on se reverra un autre fois pour de nombreuses discussions. Hein. On parlera de ton périnée si tu veux. Il n'y a pas de
Absolument.
problème.
Pas de
Carrie
trouble.
a des petits exercices pour les femmes qui ont le périnée slack. On pourrait dire
Exact.
on pourrait
Absolument.
dire ça de même.
On dérape, Caroline.
On l'échappe, là. Faut se lâcher. Fait que merci énormément, Émilie. Puis on se redonne des nouvelles une prochaine fois. Merci d'avoir participé
Ça fait
à un
plaisir.
expresso, s'il vous plaît. Puis, ben, pour notre part, hein, vous savez, comme je le dis toutes les fois, Annie Normandin, intervention familiale, intervenant familial pour ma page Facebook, Cigogne et Baluchon aussi pour Cathy. Puis, si vous voulez venir dans nos groupes où est-ce qu'on vous donne beaucoup d'outils ben, pour les mamans avec le groupe VIP de Cigogne et Baluchon. Et pour ma part, intervention famille, parents épanouis, parce que ça se peut d'être épanoui quand on est des parents. Alors, voilà. Alors, on se laisse. Puis on se rejase une prochaine fois.
Merci.